Baptiste.
C'est le nom que nous portons. D'où vient ce nom, Baptiste, Anabaptiste? Il faut peut-être le rappeler. Ce nom, à l'origine, était un sobriquet utilisé par nos adversaires. C'était une marque de mépris. Les baptiseurs, les rebaptiseurs, ceux qui rebaptisent. Et oui, Baptiste, c'est ce que nous sommes. La raison en étant que au cœur de notre message se trouve l'Évangile et que cet Évangile inclut un appel au baptême et que les appels du Seigneur, nous nous y soumettons. Cela dit, il est assez rare que nous consacrions une étude, un message au baptême. J'ai fait quelques calculs ce matin et j'ai découvert que j'ai, je pense, abordé ce sujet le dimanche matin une fois tous les 7 ou 8 ans en moyenne. Le baptême. C'est Jésus qui, s'adressant à ses disciples, quelque temps avant son départ, l'ascension, leur disait, étant allé vers toutes les nations, faites d'elles des disciples. Comment ? Eh bien, en les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Un peu plus tard, le jour de la Pentecôte, à la foule massée à Jérusalem qui demandait à Pierre ce qu'il lui fallait faire, Pierre a répondu, repentez-vous et soyez baptisés. Et puis, pour ne citer que cet autre texte, au gardien de prison de la ville de Philippe, qui s'effrayait, que dois-je faire pour être sauvé, Paul, l'apôtre, répondait, crois seulement et tu seras sauvé. Et le texte de Luc continue de la manière suivante, et aussitôt il fut, ainsi d'ailleurs que toute sa famille, baptisé. Tout à l'heure, Justine a rendu son témoignage. Et puis, quelques instants après, nous l'avons baptisé. Si vous avez compris sans peine son discours, le geste qui a suivi, lui, vous a peut-être intrigué. Que pouvait donc bien signifier ce drôle de plongeon exécuté en public ? Ce plongeon que nous appelons, à juste titre, baptême. Ce que je vous propose ce matin est une réponse possible. Il n'est pas sûr, en effet, que nous ayons tous été éclairés sur le sens du baptême tel que nous l'avons pratiqué aujourd'hui. Quant aux amis avertis, je n'imagine pas qu'ils ne puissent pas apprécier qu'on leur rafraîchisse un peu la mémoire. Alors la question est celle-ci, qu'est-ce au juste que le baptême ? Rassurez-vous, nous n'entrerons pas ce matin dans tous les détails d'un vaste sujet qui, à défaut d'avoir fait couler déjà beaucoup d'eau, a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et hélas, autant de larmes et de sang. N'oublions pas en effet que pour avoir baptisé, comme nous l'avons fait simplement ce matin, nombre de nos ancêtres, les anabaptistes, comme on les appelait avec mépris, ont été jugés, condamnés et exécutés. Mathieu, tu as de la chance. J'allais dire, tu es passé entre les gouttes, c'est pas vraiment l'expression qu'il convient d'utiliser ici. Notre ambition, donc, ce matin sera plus modeste. Apporter une réponse aussi simple que possible à la question, le baptême, c'est quoi ? Fondamentalement, comme je le dis toujours dans le cadre de la préparation au baptême, trois choses. Un, c'est un acte d'obéissance. Deux, c'est un témoignage public. Et trois, c'est un engagement personnel. Un acte d'obéissance d'abord, en demandant à passer par les eaux du baptême, comme on dit, à être baptisé donc, ou plus simplement immergé, Justine, pour ne citer qu'elle, a d'abord voulu poser un acte d'obéissance. Sa sa manière de témoigner nettement de son désir de se soumettre en tout à son nouveau maître Jésus-Christ. C'est que depuis qu'elle a rencontré Christ et reconnu en lui non seulement le sauveur du monde, mais encore son sauveur, celui qui s'était approché d'elle pour lui offrir le pardon de toutes ses fautes, Justine fait partie de ses amis. Elle vit donc désormais tout près de lui, assez en tout cas, pour entendre les instructions qu'il lui adresse, à elle, comme à tous les autres de ses intimes. Or, quel est le premier ordre donné par Christ à tous ceux qui, pour avoir accepté de croire en lui, ont reçu son salut? Celui du baptême. Vous m'avez entendu vous appeler à la confiance en moi pour votre salut, et vous avez dit « Oui, Seigneur, nous mettons notre foi, toute notre foi en toi. » Sachez que vous ne pouviez pas mieux faire. Pour avoir ainsi répondu, en effet, vous qui étiez destinés à la mort à cause de votre péché êtes aujourd'hui promis à la vie éternelle. L'essentiel pour vous est acquis. Vos noms sont à jamais inscrits dans les cieux, mais permettez que je vous dise ce que j'attends de vous maintenant. Ce que je souhaite avant toute autre chose, c'est que vous soyez baptisés. Si donc Justine est passé ce matin par les eaux du baptême, comme Johnny et Patricia la semaine dernière et d'autres par le passé, et quelques autres cet après-midi qui nous viennent de notre assemblée sœur d'Alésia, c'est parce que ce commandement de Christ, elle l'avait entendu et ne comptait certainement pas l'ignorer, elle, et je dis bravo Justine. Dommage que tous les chrétiens n'ont pas perçu comme toi la voix du Maître. C'est vrai, le baptême ne sauve pas. C'est la foi et elle seule qui sauve. Pour autant, le baptême n'est pas présenté dans la Bible comme une option, mais bien comme un ordre. Aux futurs apôtres réunis, je le rappelle, Jésus avait dit « Vous en étant allés, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est pourquoi, j'y reviens, à la foule que sa prédication avait touchée et qui le suppliait de lui indiquer la marche à suivre pour échapper à la colère divine, Pierre répondit « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. » Le baptême est un ordre que les premiers chrétiens, d'ailleurs, ont parfaitement entendu, eux. Alors, des exemples rapidement. Voyez les Samaritains, par exemple, acte 8, quand ils crurent à la bonne nouvelle, nous dit Luc, que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Et puis, un peu plus tard, le fonctionnaire éthiopien, acte 8, toujours, Philippe, je cite, prit la parole et annonça au fonctionnaire éthiopien la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau et le fonctionnaire dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit alors arrêter le char, Philippe et le fonctionnaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Ils descendirent dans l'eau parce qu'il faut de l'eau et beaucoup d'eau. Un baptême. Paul maintenant, acte 9 et 22, aussitôt après qu'il eut rencontré Christ ressuscité, Paul alla chez Ananias, nous rapporte encore Luc. Ananias qui lui dit, et maintenant, pourquoi attendre encore, Paul ? Lève-toi, lève-toi, toi qui as rencontré Christ, lève-toi et sois baptisé. Alors, nous dit-on, Paul se leva et fut baptisé. Autre exemple, Corneille et ses proches, acte 10 cette fois, alors que Pierre leur parlait de Christ, le Saint-Esprit descendit sur eux. Pierre dit alors, je cite, « Pourrait-on empêcher ces hommes d'être baptisés avec de l'eau, maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et nous pourrions citer encore Lydie, dont Luc nous rapporte qu'immédiatement après que le Seigneur lui ouvert l'esprit pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, elle fut baptisée. Ou, comme je le rappelais tout à l'heure, le gardien de prison de Philippe et sa famille, ils crurent, nous dit Luc toujours, et aussitôt ils furent baptisés. Ou encore les disciples de Corinthe. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul, lisons-nous, dans le livre des Actes toujours, crurent et furent baptisés. Ou enfin les 12 disciples d'Éphèse, dont Luc, encore lui, nous dit qu'après avoir été baptisés une première fois par Jean, ils furent rebaptisés par Paul. L'anabaptiste donc, mais cette fois comme il fallait, au nom du Seigneur Jésus. Le baptême, on le voit, n'a jamais été pour les vrais croyants une option seulement à considérer à l'occasion, mais bien un ordre du Seigneur lui-même. Un ordre auquel se sont empressés de répondre les premiers convertis à Jésus-Christ de l'histoire. Un ordre auquel je ne saurais donc trop vous presser. Vous qui, à votre tour, avez mis votre confiance en lui pour votre salut, de vous soumettre si vous ne l'avez pas encore fait. Mais il nous faut poursuivre et dire maintenant du baptême qu'il est aussi un témoignage public. Un témoignage public. Là, nous allons entrer dans le cœur même de ce que nous appelons l'Évangile. Tous ne l'ont peut-être pas perçu, mais en entrant comme elle l'a fait dans l'eau, en acceptant ensuite d'être immergé, car elle l'a été, et en se laissant enfin relever, Justine nous a parlé, mais à la manière d'un mime. Elle n'a pas ouvert la bouche, heureusement pour elle d'ailleurs, mais par un mouvement, un seul, elle nous a dit l'extraordinaire expérience qu'elle a faite le jour où le Sauveur du monde en personne l'a rencontrée et persuadée de devenir son amie. Alors, après qu'elle se fut laissée mettre à mort et ensevelir avec Christ, Dieu, par sa toute-puissance, l'a rendue elle aussi à la vie. Ainsi, par son geste étrangement simple, mais si riche de sens, Justine nous a dit l'essentiel. J'ai cru et aussitôt, selon la promesse du Seigneur, je suis passée avec lui de la mort à la vie. Et voici, désormais, je vis. Et la vie qui est en moi est la vie éternelle. Quand vous avez été baptisés, lisons-nous dans la lettre aux Colossiens, vous avez été enterrés avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui. Ah, mais je vous sens perplexe. Que signifie tout cela? Permettez que j'essaie d'expliquer. J'essaie. Au moment précis où l'un ou l'autre met sa foi en Jésus-Christ, il devient un avec lui. Dieu a comme définitivement lié sa vie à celle de son Fils. D'où cette formule « avec Christ » que Paul en particulier aime à citer pour la caractériser. Le croyant a donc été rendu parfaitement solidaire de Christ, au point que leur destin désormais se confondent. Christ est mort, le croyant est mort avec lui. Christ a été enseveli, le croyant a été enseveli avec lui. Christ est ressuscité, le croyant est ressuscité avec lui. C'est pourquoi Justine a pu rendre par le mime le témoignage qu'elle a rendu. Pour s'être unie par la foi à Jésus-Christ, avec lui elle est morte. Avec lui, elle a été ensevelie, mais avec lui aussi, elle a été rendue à la vie. Une expérience étonnante dont il n'est peut-être pas inutile d'éclairer ici les deux temps forts, mort et résurrection. Elle est morte. S'adressant aux chrétiens de Colosse, Paul disait « Vous êtes morts ». Nous nous concluons qu'en tant que croyants, nous sommes tous morts. Et ce n'est pas Justine qui nous contredira, elle qui, en se laissant immerger comme elle l'a fait, ne nous a rien dit d'autre que « je suis morte ». Alors, reste à savoir, bien sûr, ce que nous devons entendre par là, dans quel sens nous tous qui croyons pouvons nous dire avec Justine que nous-mêmes, nous sommes morts. En ce sens seulement qu'avec Christ, nous sommes morts aux sollicitations du monde et du péché. Paul, sur ce sujet, est sans détour. Nous qui, par la foi, avons adhéré à Christ, nous avons rompu avec le monde et le péché, au point que nous sommes comme morts. L'œuvre de la conversion, écrit un commentateur de la lettre aux Colossiens, précisément, a été de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Dès lors, poursuit-il en substance, nous sommes devenus morts au péché. La tentation n'a plus de prise sur nous. Un cadavre peut-il être tenté ? Le monde peut bien nous piquer, nous blesser, nous vexer. Nous ne bronchons pas plus que les morts. C'est que nous ne sommes plus accessibles ni à ses appels, ni à ses influences. Ces vaines théories ne nous intéressent pas, non plus d'ailleurs que ces prétendus plaisirs. En se laissant immerger comme elle l'a fait tout à l'heure, Justine a donc d'abord voulu dire cela, qu'avec Christ, elle était morte. Mais vous l'avez vu, Justine n'est pas restée longtemps sous l'eau à peine, l'avait-on immergée, qu'on la relevait déjà, signifiant par là qu'étant morte avec Christ, elle était aussi ressuscitée avec lui. Elle est ressuscitée. S'adressant aux chrétiens de Colosse, toujours Paul déclare « Vous êtes ressuscités avec Christ !» D'où nous concluons qu'en tant que croyants, nous avons tous été rendus à la vie. Et ici non plus, ce n'est pas Justine qui nous contredira. Elle qui, en se laissant relever comme elle l'a fait, ne nous a rien dit d'autre que ceci « Je suis ressuscité !» Là encore, un mot d'explication. Lorsque par la foi, nous nous sommes comme attachés à son Fils, Dieu, dans sa grâce, nous a fait participants de la vie même de Christ. Sa vie est devenue notre vie. Et nous avons compris alors deux choses. Une, que nous vivrions à jamais. Et deux, que notre vie ne pourrait plus être qu'une vie résolument tournée vers Dieu et librement consacrée à son service. Entendez bien, écrivait l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome cette fois. Christ est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, ajoute-t-il, vous aussi, considérez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments pour accomplir le mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des hommes revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour accomplir quoi ? Ce qui est juste. Sachant que ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu sera de votre part un culte raisonnable. Ainsi, notre condition présente est double, morts au monde et vivant pour Dieu. Et notre voie toute tracée. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marcherons nous aussi en nouveauté de vie. En d'autres termes, nous veillerons toujours à ce que notre vie puise en Dieu son inspiration et son sens. En se laissant relever hors de l'eau, comme elle l'a fait tout à l'heure, Justine a donc voulu dire cela aussi, qu'avec Christ, elle avait été ressuscitée, et qu'ayant hérité alors la vie même du ressuscité, elle vivait désormais à jamais par Dieu et pour Dieu. Et nous voici parvenus tout naturellement au troisième aspect du baptême, lequel n'est pas seulement un acte d'obéissance et un témoignage public, mais également un engagement personnel. Un engagement personnel et solennel. Justine, voyez-vous, n'est plus la jeune femme indépendante qu'elle a été. C'est une jeune femme nouvelle. Une jeune femme qui, un jour, alors qu'elle menait sa vie, suivant le chemin de son choix, est tombée nez à nez, si je puis dire, avec quelqu'un qui l'a saisi par le bras et lui a dit « Stop, stop. Tu es en train de t'égarer encore un peu et tu te perdras complètement. Stop et écoute, si je suis venu à ta rencontre aujourd'hui, c'est pour te ramener sur la bonne voie, celle qui mène à la vie et non à la mort. Mais pour que je puisse le faire, il te faut accepter aujourd'hui de renoncer à toi-même et de me suivre. Jusqu'ici, c'est toi qui décidais. Eh bien, à partir de maintenant, ce sera moi. Ce que je te demande, c'est de me faire suffisamment confiance pour m'abandonner sans réserve les rênes de ta vie. Je te dicterai alors ma volonté et te tracerai, moi, la route que tu devras suivre. Une route qui, tu le verras, ressemblera étrangement à celle que j'ai moi-même empruntée. C'était il y a bientôt 2000 ans. Eh oui, exigeant, je le suis, c'est vrai, mais rappelle-toi. C'est pour ton bien, le salut de ton être tout entier. À mon tour d'écouter maintenant, quelle est ta réponse? C'est alors que Justine a dit, oui, j'accepte. Comme je t'ai fait confiance pour me sauver, je te ferai confiance pour me conduire. Tu es déjà mon sauveur, tu seras désormais aussi mon Seigneur, le maître de ma vie. Et le ciel ne fut plus alors que cri de joie et chant de reconnaissance. Celle qui était perdue était retrouvée. Et voici, elle venait de mettre tout simplement sa main tremblante dans celle forte et chaude du Fils. Un contrat était passé, une alliance scellée entre eux deux, que rien ni personne ne pourrait plus jamais rompre. À l'invitation du Fils, « Toi que j'ai sauvé, suis-moi maintenant », avait répondu la promesse de Justine, « Je te suivrai où que tu me mènes ». Et à la promesse de Justine avait répondu la promesse du Fils, « Personne ne t'arrachera jamais de ma main. Partout où je serai, tu seras aussi, toi aussi, éternellement. » Formidable contrat qu'il restait seulement à rendre public, ce que Justine vient tout juste de faire. En passant par les eaux du baptême, en effet, Justine a fait plus qu'obéir simplement au Seigneur, en mimant sous nos yeux sa formidable expérience de salut. Elle a également largement publié l'existence d'un engagement solennel, celui par lequel elle a choisi de se lier définitivement à Christ. Cet engagement n'était connu jusqu'ici que d'un petit nombre. Il est aujourd'hui notoire. Et nous qui avons assisté à son baptême en serons pour toujours les témoins heureux et reconnaissant. Ainsi, le baptême est aussi la publication d'une alliance. Pour être précis, ce moment particulier où, en tant que femme ou homme qui avons cru en Jésus-Christ, nous disons haut et fort ce que nous avons confié déjà dans l'intimité à notre Sauveur. Que nous nous soumettions à son autorité et que notre ferme intention était de vivre désormais tous d'une manière digne de lui. Autrement dit, de nous comporter en tout de façon à recueillir sa pleine approbation. Permettez alors qu'avant de conclure, je m'adresse plus particulièrement à nous tous ici qui, sur confession personnelle de notre foi et à notre propre demande, avons reçu le baptême un jour. Avons-nous tenu parole? Nous nous sommes engagés, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, à mettre Christ à la première place dans notre vie. Avons-nous respecté notre engagement? Souvenez-vous de cette admirable description proposée par mon père, dans un livre que j'aime à relire, de la vie du baptisé. Non pas la réalisation de nos plans, de nos ambitions, de nos désirs, de notre volonté, mais bien plutôt celle du plan de Dieu, avec les moyens qu'il nous donne au moment où il le désire. Vivre en disciple, écrit-il encore, ce n'est pas de faire entrer Dieu dans nos plans, nos projets, nos pensées, notre travail, notre vie, notre service. C'est au contraire d'entrer, nous, dans son plan, son service, son travail, ses projets. C'est de chercher à lui être entièrement agréable. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Mon unique désir est de te plaire. Mais qu'est-ce qui te plaît ? J'aurais bien des idées qui, me semble-t-il, te feraient plaisir, mais quel est ton plaisir à toi ? Mon Seigneur, mon Maître. Oui, vivons-nous cette vie du baptisé ? Ou avons-nous depuis longtemps oublié nos promesses et repris les commandes de notre vie ? Je laisse bien évidemment à chacun, chacune, le soin de s'examiner honnêtement. Il y a celles et ceux qui doivent reconnaître qu'ils ont manqué à leur parole. Je dis seulement que grâce à Dieu, il n'est pas trop tard pour se reprendre et rechercher à nouveau dans le Seigneur la volonté et les forces de respecter enfin pleinement et durablement ses engagements. Il nous faut conclure. Le baptême, on l'a vu, tout à la fois un acte d'obéissance, un témoignage public et un engagement solennel. Comme tant d'autres avant elle, Justine l'a demandé et reçu ce baptême. Et vous ? Ah, vous ne croyez peut-être pas. Peut-être pouvons-nous vous aider à trouver et suivre le chemin de la foi qui seul, nous en sommes convaincus, mène à la vie, la vraie. Pourquoi ne pas nous interroger ? Nous ferions un plaisir de rendre compte devant vous de l'espérance qui est la nôtre. Nous sommes là pour ça. Vous croyez, c'est heureux, mais vous n'avez toujours pas été baptisé. J'ose espérer que ce que vous venez de voir d'abord, d'entendre ensuite, suffira à vous persuader de ne plus tarder à faire ce que le Seigneur, et pas nous, le Seigneur vous demande. Témoignez publiquement de votre salut et faire de nous tous les témoins comblés de l'engagement solennel que vous avez pris envers Christ, votre Sauveur, votre Seigneur. Amen.